Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. La liberté de la presse, l'un des principes fondamentaux de nos démocraties. Et chaque année, le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse nous rappelle à quel point dans le monde, la liberté d'expression est menacée, remise en cause ou réprimée. La liberté de la presse est un combat, la liberté d'expression un cri qui ne doit pas être étouffé. Reporters sans frontières vient de publier le classement mondial de la liberté de la presse pour 2016 et dénonce un recul partout dans le monde, ainsi que la paranoïa des dirigeants contre les journalistes. Les combats du journalisme, on en parle ce matin avec nos invités dans le secret des sources. Samir Kilic, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique au journal Zaman France. Christophe Deloire, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général de Reporters sans frontières. Patrick Evenot qui va nous rejoindre, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'information. Et en cours d'émission, nous serons en ligne avec Soukaina Abdesamad, journaliste à la première chaîne de la télévision nationale tunisienne et également secrétaire général du syndicat national des journalistes tunisiens. Notre regard extérieur nécessaire qui nous accompagne aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Et en seconde partie d'émission, nous accueillerons Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France, qui publie Amoureux Foot, une coédition Calman Lévy Radio France. Nous sommes à un mois de l'Euro en France. Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard et dans les coulisses de l'émission, Antoine Tricot, David Jacuboviez avec aux manettes aujourd'hui Alexandre Dang. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Le secret des sources.
En 2015, 110 journalistes ont ainsi été tués dans le monde. 153 sont en prison et 54 sont retenus en otage.
Erdogan a ouvertement déclaré qu'il allait débuter une très large chasse aux sorcières face à ceux qui le critiquent.
It's no secret. Some trends within Turkey that I've been troubled with.
Le regroupement de titres de presse aux mains de moins en moins d'actionnaires différents uniformise le discours médiatique. C'est le cas en France. Aujourd'hui, quelques milliardaires possèdent la majorité des journaux.
I am a strong believer in freedom of the press.
Voilà la liberté de la presse expliquée aux enfants et défendue par le président américain Obama qui croit fermement à la liberté de la presse. Christophe Deloire de Reporters sans frontières. La liberté de la presse dans le monde en 2016, ce n'est pas fameux. Vous notez dans votre classement un recul un peu partout dans tous les pays.
Oui, parce que si un classement par nature c'est relatif et s'il y a autant de places gagnées que de places perdues, par définition, on calcule à l'occasion d'établissement du classement mondial de la liberté de la presse un indice équivaut pour tous les continents et les pays et le niveau de performance en matière de liberté de la presse de la plupart des pays dans le monde est en train de baisser. Et c'est le cas d'année en année. C'est une chute qui est profonde, constante, et qu'on en observe sur à peu près tous les continents. Alors, il y a un continent qui s'effondre encore plus que les autres.
Le continent américain.
C'est le continent américain, sous l'influence de l'Amérique du Sud, où les journalistes subissent et sont souvent pris en étau entre une violence institutionnelle de la part des pouvoirs, souvent des pouvoirs locaux d'ailleurs, avec beaucoup de phénomènes qu'on appelle par exemple au Brésil de coronalisme, c'est-à-dire où des potentats locaux sont aussi les propriétaires des médias et font régner une forme de terreur pour le reste. Et subissent aussi une violence physique directe de la part des cartels, par exemple. Et c'est le cas au Mexique, où ça, l'année dernière, a quand même été marqué par le fait que les narcotrafiquants, qui jusqu'à présent attaquaient les journalistes dans les États fédérés, par exemple dans le plus tristement célèbre d'entre eux de ce point de vue-là, qui est l'État de Veracruz, et là sont allés jusqu'à Mexico, alors même que Mexico demeurait pour beaucoup de journalistes une ville capitale où les journalistes pouvaient être réfugiés en exil intérieur.
Et si bien que le continent américain, passe derrière l'Afrique.
L'Afrique, laquelle est désormais le deuxième continent au monde du point de vue de la liberté de la presse, derrière le premier qui est de loin, il faut bien le dire, qui est le continent européen.
Vous parlez de paranoïa contre les journalistes, Christophe Deloire. Paranoïa des dirigeants.
On voit bien que dans de très nombreux pays et dans des pays de nature très différente, on parlera tout à l'heure de la Turquie et d'Erdogan, mais aussi parfois dans des pays à l'intérieur de l'Europe. On a d'abord connu la Hongrie depuis quelques mois, c'est en Pologne qui a un resserrement très fort.
Qui dégringole de 29 places, c'est ça ?
C'est le classement des plus fortes chutes
47e position.
Au classement mondial de la liberté de la presse, par volonté de remobiliser, de recontrôler les sociétés. Des médias publics sont transformés en médias d'État, y compris dans des régimes politiques de nature très différente. Il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos, évidemment, ce serait totalement absurde, les dictatures et les démocraties. Mais il y a une forme de reprise en main, avec effectivement une paranoïa qui évidemment va au-delà des journalistes. Ça peut être le cas contre les syndicalistes. En Turquie, c'est aussi contre les universitaires. Il suffit de pétitionner pour prendre le risque d'être poursuivi. Mais les journalistes, c'est toujours un verrou très fort parce que, évidemment, faire en sorte de briser la capacité des journalistes à évoquer les infractions contre la liberté, y compris dans d'autres secteurs, on est là dans une liberté qu'on peut considérer comme la liberté qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres, la liberté de l'information. Et c'est pourquoi, pour bon nombre d'autorités, c'est le point central, c'est celui qu'il faut attaquer en premier.
Alors, ce combat pour la liberté de la presse, Christophe Deloire, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire aussi des présidents, de François Hollande ou d'autres, lorsqu'ils vont par exemple en Arabie Saoudite. C'est l'affaire du Premier ministre, Manuel Valls, sans doute aussi, lorsqu'il va par exemple en Algérie. Est-ce que vous regrettez que les prises de position de nos gouvernants en Europe ne se peut-être pas assez clairement exprimé lors de ces déplacements dans des pays mal classés?
Non, mais c'est très clair que dans certains pays, il y a des insuffisances. Je voudrais commencer en disant que, même si la France n'est pas formidablement classée au classement mondial de la liberté de la presse...
De quoi au-dessus de la Pologne, 45e.
La France fait quand même beaucoup à l'étranger. Et j'observe que dans un certain nombre de postes, c'est-à-dire d'ambassades, il y a des diplomates qui sont mobilisés, qui payent de leur personne. La France en tant que telle intervient pour des journalistes. Ça ne suffit pas toujours. Et je pense au cas de Naci Djerf, ce journaliste syrien qui a été tué au sud de la Turquie alors qu'il en faisait des documentaires sur Daesh, et la France lui avait accordé un visa, comme c'est souvent le cas, à des journalistes en danger ainsi qu'à sa famille, mais il a été tué quelques heures avant de prendre l'avion. Mais la France, elle fait des choses. Malheureusement, dans un certain nombre de pays, et vous citiez l'Arabie Saoudite, c'est aussi le cas de l'Égypte, les prises d'opposition, elles sont trop faibles. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait une doctrine erronée que de considérer qu'au motif qu'il y a des intérêts commerciaux, qu'il suffit pas de faire preuve de force diplomatique pour arriver à des résultats, il faudrait être dans une réelle politique. La réelle politique, elle est vraiment dangereuse. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas simplement défendre les droits des Saoudiens que de défendre la liberté de l'information en Arabie Saoudite, de tenter d'empêcher que les journalistes y soient condamnés à des années de prison ou à des coups de fouet. Ce qui se passe dans ces pays a aussi une influence sur les ressortissants français, et y compris les ressortissants en France. Évidemment, l'Arabie Saoudite fait partie de ces pays où se développe une idéologie qui peut, in fine, aboutir à des actes tels que ceux qui ont été commis contre Charlie Hebdo. Et donc, aujourd'hui, il faut lutter contre des modèles politiques que certains pays veulent imposer à d'autres. Je pense à la Chine qui veut imposer un nouvel ordre des médias et qui le fait même en finançant des écoles de journalisme en Afrique. Et je pense à bon nombre de pays. Sinon, ça n'est pas simplement les intérêts, les droits, les libertés des citoyens dans ces pays-là qui continueront à être brimés. Il y aura des répercussions jusque dans les démocraties dignes de ce nom.
Alors je me tourne vers vous, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. La liberté de la presse dans le monde est malmenée, c'est un combat, nous dit Christophe Deloire. Et pour en prendre la mesure, Jean-Marie, vous y voyez trois raisons, ou plutôt trois degrés.
Oui, je crois que si on veut effectivement prendre la mesure des questions liées à la liberté de la presse dans le monde, il faut plusieurs points de vue et effectivement plusieurs degrés. Le premier degré, évidemment le plus élémentaire, consiste à savoir si déjà la presse peut informer sans avoir à demander une autorisation, sans cautionnement, sans censure, sans disposition du droit telle que l'atteinte au chef de l'État ou à la haute fonction publique, comme c'est le cas par exemple dans tant de dictatures, mais aussi à nos portes tout près dans un pays tel que la Turquie. Ce premier degré, c'est aussi consiste à savoir ce que risquent les journalistes qui contreviennent à ces encadrements liberticides. Ça peut être la saisie de journaux, ça peut être les interdictions, ça peut être la prise de contrôle par l'État de médias, on l'a vu là aussi dans le cadre de la Turquie. Ça peut, pour les journalistes, être évidemment l'emprisonnement, parfois à des peines très longues. C'est de nouveau le cas en Turquie, et c'est des choses qui sont en train d'ailleurs de se juger en ce moment, mais c'est évidemment le cas aussi en Chine ou en Corée du Nord. Dans un registre assez proche, des États peuvent être coupables de ne pas garantir la liberté de la presse en laissant agir des bandes ou des mafias qui intimident les médias, les rançonnent ou assassinent les journalistes. On peut penser ici à la situation dans des pays comme le Mexique, on vient de l'évoquer, ou le Burundi, ou la Russie. Enfin, dans leur logique consistant à couper tout ce qui dépasse, les dictatures, les régimes autoritaires, ne pouvaient rester indifférents aux blogs ou aux réseaux sociaux, surtout au regard de leur rôle depuis le printemps arabe. En Arabie Saoudite, les peines en termes de coups de bâton pleuvent. En Turquie, chaque attentat coïncide avec des tentatives de couper les réseaux sociaux, ou de les ralentir au minimum. Et en Chine, on peut dire que les algorithmes sont devenus les supplétifs de la police. Alors le second degré, celui de la liberté de la presse, ne se réduit pas simplement à la question de la liberté d'expression ou de point de vue. Cette liberté passe aussi également par la possibilité pour les journalistes de traiter l'actualité dans les régions en crise. Les guerres civiles, les émeutes, les guérillas, les famines, etc. Et là, on voit bien le nombre de journalistes pris en otage, tués, exécutés au Moyen-Orient, mais pas seulement, et qui suffit à souligner donc la gravité de ces situations. Comme s'il y avait un revers pour les journalistes d'être plus mobiles, de pouvoir transmettre texte, son, image, n'importe où, avec des moyens ultra-légers, et de pouvoir travailler autrement qu'embedded. Et à cet égard, un signal terrible a été donné, me semble-t-il, par l'armée américaine en 2003. Souvenez-vous de ce tir direct sur l'hôtel Palestine par un char américain à Bagdad, donc, tuant et blessant plusieurs journalistes de la presse internationale. Quel message ! Une forme de permis de tuer les journalistes qu'ont cru pouvoir y déceler des Assad et autres sabreurs de leur peuple. Le troisième degré, c'est celui des moyens dont les médias ont besoin pour produire une information approfondie et diversifiée. À plusieurs reprises, on a évoqué ici la diminution du nombre de journalistes. Moins 30% dans les années 2000 aux États-Unis, par exemple, ou en Espagne. C'est vrai qu'on n'est pas dans ces proportions dans un pays comme la France, mais le chiffre recule aussi. Mais c'est aussi les moyens d'accès aux sources. Or là, force est de constater que la nouvelle loi promise en France sur le secret des sources n'est toujours pas votée, tout comme le silence est grand à propos des lanceurs d'alerte au lendemain des Panama Papers, au moment de la tenue du scandaleux procès des lanceurs d'alerte et du journaliste dans l'affaire LuxLeaks. C'est-à-dire que la liberté de la presse est un combat de longue haleine qui fait appel à la solidarité internationale. La liberté de la presse est aussi une production de solutions à trouver à tout instant, comme le souligne l'action de RSF ou la création de la Maison des journalistes. Et je voudrais rappeler d'ailleurs dans cette maison que c'est Daniel Ohayon qui a fondé cette Maison des journalistes et qui était journaliste à France Info à l'époque.
Eh ben, vous avez bien fait de le rappeler. Merci Jean-Marie Charon.
Le procès de deux journalistes turcs anti-Erdogan s'est ouvert à Istanbul. Un procès qui questionne sur la liberté de la presse. Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, et Erdem Gül, son chef de bureau à Ankara, sont poursuivis pour un article accusant leur pays d'avoir livré des armes aux rebelles islamistes syriens. Ils ont essayé de tout faire pour cacher la situation, explique Can Dündar. Et aujourd'hui, comme la Cour l'a dit, nous sommes venus ici pour juger, pas pour être jugés. Et comme ils ne voulaient pas que ce jugement soit public, ils ont décidé qu'il se tiendra à huis clos. Erdem Gül rajoute qu'ils risquent la prison à vie parce qu'ils ont fait leur travail. Nous allons défendre la liberté de la presse, dit-il. Vidéo à l'appui. Les journalistes avaient accusé les services de renseignement turcs d'envoyer des camions bourrés d'armes aux islamistes. L'article avait provoqué la fureur du président Erdogan. C'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui accusés d'espionnage et tentative de coup d'État.
Denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist...
Voilà, on a entendu un reportage diffusé sur Euronews en mars dernier et vous avez également entendu un extrait d'une chanson satirique diffusée en Allemagne et jugée offensante contre le président turc Erdogan, et cela a provoqué une brouille diplomatique assez forte entre Berlin et Ankara. J'ajoute qu'à propos du procès de Yann Dündar, Yann Dündar a échappé hier à une attaque à main armée devant le palais de justice d'Istanbul et l'assaillant s'est rendu et a été arrêté. Sami Kilic, journaliste à Zaman France, votre journal, le quotidien d'opposition Zaman, c'était le plus gros tirage du pays, oui. Et votre journal a été confisqué.
Voilà, tout simplement, le journal le plus vendu de Turquie, c'était 600 000 à 700 000 exemplaires donc écoulés chaque jour. Zaman, plutôt centre-droit, a été confisqué en mars dernier par le pouvoir. Bon, en réalité, la confiscation, ça passe par une procédure judiciaire. On entend souvent les gens dire « oui, mais il y a eu une procédure judiciaire derrière ». Effectivement, il y a eu une procédure judiciaire. Bon, le problème étant que les juges qui donnent ces décisions sont connus comme étant des artificiers du pouvoir. Même certains avaient dans leur page Facebook la photo du président de la République en disant qu'ils l'adoraient, le grand, on l'appelle Uzun en turc, c'est-à-dire le grand. Donc voilà, ce sont des juges de cette trempe qui donnent ces décisions. Et bien avant le journal Zaman, il y a eu d'autres journaux qui ont été confisqués, comme Bugün par exemple, le groupe de médias Koza İpek, qui a aussi été réprimé. On a vu d'ailleurs
des
les
télévisions
images.
Également.
Les télévisions, il y avait Canal Turc, par exemple, qui a été fermé. Même Bugün TV qui a été fermé en direct. Zaman, par exemple, l'assaut contre Zaman. D'ailleurs, Christophe était à la rédaction de Zaman France. On avait vu en direct les scènes ubuesques avec des canons à eau, des gens jetés à droite, à gauche, et les policiers qui entrer par la force, enfin les administrateurs qui entraient sur les fourgons de police dans le journal. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, ce journal, malheureusement, a perdu la quasi-totalité de sa vente. Enfin bon, on est tombé à 2 ou 3 000 exemplaires par jour. Et par conséquent, c'est devenu un véritable journal à la gloire d'Erdogan.
Ça, c'est l'organe officiel de presse du pouvoir.
Aujourd'hui, oui, ça fait partie de
l'un de ces journaux. Et en préparant l'émission, vous disiez, ils vendent à 2 000 exemplaires au lieu de 700 000.
Ils sont actuellement à 2 000, 3 000. On évoque même la possibilité de fermer ce journal pour une raison simple, c'est que, évidemment, ça a fait faillite. C'est en général la méthode utilisée. Bugün a été fermé de cette manière.
Mais là nous ne sommes plus simplement dans une dérive autoritaire. La presse est en danger, la presse est menacée en Turquie, Christophe Deloire, Sami Kilic.
Kadri Gürsel, qui est un grand éditorialiste turc, et qui était là cette semaine à Paris, à l'événement que Reporters sans frontières a organisé au Théâtre du Rond-Point à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a dit que le journalisme était mort en Turquie. Alors, peut-être qu'il exagérait, il reste toujours du journalisme en Turquie, mais c'est vrai qu'il est dans un état de survie. On donnait ces exemples à l'instant de journaux placés sous administration judiciaire, mais c'est pas des administrations judiciaires, c'est que du jour au lendemain, la ligne éditoriale est radicalement changée, et c'est ainsi qu'on tue des journaux. Et ça, c'est vrai que des journaux sont tués. En quelques jours, si on devait récapituler, Can Dündar, qui fait l'objet de multiples procédures, qui est le plus célèbre journaliste turc, a été condamné la semaine dernière à 30 000 euros pour avoir évoqué des affaires de corruption relatives au pouvoir. Le patron d'une chaîne qui elle-même avait été arrêtée en direct, dont le signal satellitaire avait été coupé en direct, hors de procédure judiciaire, a été arrêté. Une journaliste néerlandaise a été arrêtée pour un tweet qui avait déplu au pouvoir. Deux journalistes du même journal, Cumhuriyet, ont été condamnés à 2 ans de prison, simplement parce qu'ils avaient publié après le 7 janvier 2015 la couverture « Tout est pardonné ». De Charlie Hebdo, dans leur colonne, puisque la Turquie est un pays où les éditorialistes ont une très grande autorité sur leur colonne, je dirais plus qu'en France d'une certaine manière. Et donc, contre l'avis du patron du journal de l'époque, ils avaient publié simplement cette reproduction de « Tout est pardonné », 2 ans de prison. Et un journaliste kurde a été placé en détention, condamné à de la prison. Pour
ces dernières heures, c'est ça.
Donc c'était jeudi. Ouais. Il a été condamné à 6 ans de prison, un journaliste donc de l'agence de presse kurde, en gros, Dijle.
Moi, j'ai rencontré en Turquie des journalistes qui, je le disais, sont licenciés pour un tweet critique ou simplement pour avoir retweeté un tweet critique. C'est une épuration dans les journaux de tout ce qui représente l'indépendance du journalisme. Et puis se surajoute à ces méthodes violentes des méthodes plus soft qui renvoient à un autre sujet de l'émission, qui est que des oligarques font en sorte de contrôler des rédactions, ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui est un phénomène international. Mais on arrive à ce que, en Turquie, certains grands sujets ne sont évoqués que par une petite marge des journaux.
Alors, Sami Kilic, vous me disiez en préparant l'émission qu'aujourd'hui, 33 journalistes sont en prison en Turquie. Oui. Alors, on peut être poursuivi et condamné pour outrage ou insulte au président Erdogan et ça laisse une large possibilité aux tribunaux d'appréciation.
Pour les juges. Bon, alors, y a les trois grands dangers actuellement, c'est justement l'article 299 du Code pénal sur l'offense au chef de l'État. Là, récemment, Murat Belgey, qui est aussi un grand chroniqueur, est passé devant le juge, d'ailleurs le prix Nobel Orhan Pamuk est venu le soutenir. Deuxièmement, c'est la loi antiterroriste, avec cette définition, enfin en tout cas le concept de faire la propagande d'une organisation terroriste qui reste extrêmement large et qui laisse justement à la jurisprudence le soin de définir ce qu'est une propagande. Et troisièmement, c'est l'autocensure en Turquie qui existe sur... dans tous les médias. Là, récemment, par exemple, le jour du 1er mai, lorsque le président d'un syndicat disque de gauche révolutionnaire a parlé en direct, la chaîne CNN turque, bon, qui essaye de rester indépendante, on va dire, a coupé le président parce qu'il avait dit, il avait lancé à la foule que ton palais soit détruit. En direction du palais présidentiel, le fameux palais présidentiel du président Erdogan. Et donc, dans les secondes qui ont suivi, la chaîne a immédiatement coupé le son et ensuite l'image.
Alors, autre exemple, on va aller en Tunisie, où vous nous dites, Christophe Deloire, pour reprendre une expression très en vogue en ce moment, que ça va mieux. En tout cas, la Tunisie a gagné 30 places au classement. Nous sommes en ligne avec Soukaina Abdessamad. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste à la télévision tunisienne, la première chaîne, et vous êtes également secrétaire général du syndicat national des journalistes tunisiens. Vous êtes d'accord avec le classement de Reporters sans frontières? La situation de la presse en Tunisie s'améliore, vous pouvez en témoigner?
Oui, bien sûr. Bon, ce qu'on peut dire, c'est-à-dire le rapport, en tout cas, c'est pour nous, c'est ça nous fait un grand plaisir parce que quand même, le journalisme en Tunisie a fait un grand pas en avant. Bien sûr, ça, nous pouvons pas nier qu'il y a quand même certains obstacles qui restent là, toujours là, certaines pressions, quelques agressions, bien sûr, de la part des agents de sécurité ou des politiciens ou des groupes extrémistes, mais il y a toujours cette vague, disons, d'espoir. Parce que nous, journalistes, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous travaillons librement. Nous travaillons sans instruction qui viennent de là-haut, de la part directement des responsables au gouvernement ou de la présidence.
Soukaina Abdessamad, qu'en est-il du projet de loi relatif à l'accès de l'information? Il doit être discuté à l'Assemblée des représentants du peuple.
Oui, bien sûr, ça c'est encore un grand gain. Parce que, vous voyez là, comme on a pu, parce que même cette loi-là, on allait la faire passer avec des instructions ou des choses qui sont vagues. Mais on a quand même réussi, en tant que syndicat du journaliste tunisien, en tant que avec d'autres gens de la société civile, donc nous avons réussi à faire passer la loi telle qu'elle est. Tel que nous la voulons.
Merci Soukaina Abdessamad. Je retiens que vous pouvez travailler librement, c'est ce que vous nous dites. Je voulais savoir, est-ce qu'on trouve toujours le canard enchaîné en Tunisie? Parce que je sais qu'après le départ de Ben Ali, c'est l'arrivée du canard enchaîné à Tunis, c'était un pas très très important pour la liberté de la presse, un grand espoir. On trouve toujours le canard, bien sûr?
Oui, bien sûr, oui.
Merci beaucoup Soukaina Abdessamad en duplex de Tunis. Christophe Deloire, vous vouliez réagir?
Oui, simplement pour signaler que si la situation s'est notablement améliorée, un gain de 30 places, la Tunisie, elle demeure à la 96e place sur 180 pays du classement mondial de la liberté de la presse. Donc le calcul est simple, c'est au début de la deuxième moitié, parce que les agressions contre les journalistes, la journaliste tunisienne le signalait, ont baissé, parce qu'il y a moins de procédures abusives, mais... Quand même, il y a quelques mois, le patron de l'audiovisuel public a été changé sans que la procédure prévue ait été respectée. La haute autorité audiovisuelle qui s'appelle la AIK aurait dû être consultée. Elle l'a pas été du tout. Donc il y a encore des progrès à faire dans ce pays.
Merci Christophe Deloire.
Figurez-vous qu'au classement annuel de Reporters sans frontières, la France est en recul de 7 places et tombe à la 45e place, juste derrière Trinité et Tobago, le Botswana, et dans le trio de tête, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande. Alors, que se passe-t-il pour que nous soyons à ce point en chute libre? Quelle est, vous demandez-vous, la part de responsabilité d'Yves Tréhard, de Laurent Geoffrin ou de Nicolas Bétou dans cette affaire? Rassurez-vous, aucune. Ah. Ou en tout cas pas officiellement. Voici en tout cas les arguments qu'avance Reporters sans frontières pour justifier de cette dégringolade. Si la presse est globalement libre et plutôt protégée par la loi, le paysage médiatique français est largement constitué de groupes dont les propriétaires ont d'autres intérêts qui souvent pèsent beaucoup plus que leur attachement au journalisme. Cette situation entraîne des conflits qui font peser une menace sur l'indépendance éditoriale et même sur la situation économique des médias. On note également, dit toujours Reporters sans frontières, une hostilité grandissante à l'égard des journalistes de la part de la population.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Avec nos invités Christophe Deloire, Sami Kilic, Patrick Evenot, la concentration des médias. C'était un extrait de la rue de presse de Nicolas Martin mardi dernier dans les matins de France Culture. La France 45e au classement de la liberté de la presse. Ce n'est pas brillant. Est-ce que ce phénomène de concentration dans les secteurs des médias, Patrick Evenot, est un risque pour la liberté de la presse?
Alors, c'est une question qui se pose. Il faut éviter de rentrer dans l'effraiement qu'on trouve assez fréquemment en France, qui est de dire « l'argent corrompt tout et l'argent est sale » et par définition, l'argent est corrupteur. C'est une tendance qu'on retrouve aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche et il faudrait peut-être éviter de trop la saisir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de liberté des médias, et la liberté des médias, il faut le rappeler, c'est fondamental en toute démocratie. Hein. S'il n'y a pas de liberté des médias, il n'y a pas de droit du public à être informé, et donc il n'y a pas de possibilité démocratique. Alors, la concentration en France, elle est, sinusoïdale. On a eu des périodes de très forte concentration. Il faut se rappeler, dans les années 70, le groupe Hersant, qui détenait quasiment la moitié de la presse française, et puis à côté, l'audiovisuel public, qui détenait la totalité de l'audiovisuel, et puis rien d'autre.
Mais il n'y avait pas les Internet, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, il n'y avait pas les tuyaux.
Voilà, il faut penser autrement que ce qu'on pensait dans les années 70 ou 80, parce qu'il y a eu multiplication des chaînes de télé, des radios, et l'arrivée d'Internet, des tuyaux, etc. Et donc effectivement, la presse qui est en déclin, c'est évident, est en concentration comme toutes les industries déclinantes, comme toutes les industries mûres. Il y a une concentration qui est, à mon avis, inévitable. On peut toujours penser que ça serait bien d'avoir des centaines de quotidiens comme il y avait en 1914, mais on n'est plus en 1914, on est en 2016. Donc voilà, il y avait 4 quotidiens à Alençon, par exemple. Bon, effectivement, c'était beaucoup moins concentré. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul et il n'est pas seulement à Alençon. Bien, donc... Ça, c'est vrai que c'est inévitable. Mais en même temps, ces gens qui interviennent, ils arrivent et ils sont propriétaires d'autre chose que des médias. La presse française est très peu concentrée. On n'a pas de groupe supérieur à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'en Allemagne, on a Bertelsmann à 17 milliards d'euros. Enfin bon, vous voyez, c'est très peu concentré. Le problème, c'est que ce sont des intervenants qui viennent de l'extérieur, qui ont fait fortune ou qui gagnent leur argent dans l'aviation, dans le luxe, dans les télécoms, ou etc. Et là, il y a effectivement quelque chose, c'est-à-dire que c'est peut-être rassurant au niveau du politique, parce que le premier ennemi, c'est quand même l'État, c'est quand même celui-là qui est le plus dangereux, et on le voit bien, par exemple, en Europe de l'Est, où il y a une alliance des oligarques et de l'État qui fait qu'il y a une pression terrible sur le journalisme et sur les médias. Alors, je crois qu'il faut faire très attention, et il faut que les rédactions passent des pactes avec leurs actionnaires. Je crois que c'est là où est le plus important, c'est que, alors on peut appeler ça une charte ou un pacte ou un accord ou etc., mais où on peut voir que les rédactions font une espèce de mur qui n'est pas très solide, c'est pas un mur de béton, c'est un mur de papier, mais qui est important parce que collectivement, ils peuvent se saisir. Et puis les rédactions peuvent dénoncer. collectivement, dès qu'il y a une intervention, on voit bien ce qui s'est passé pour Canal+, saisi par Bolloré, immédiatement la Société des journalistes a dénoncé la mainmise de, enfin l'interdiction d'un reportage ou d'une émission par Bolloré, etc.
Mais le reportage n'est pas passé.
Le reportage n'est pas passé, mais l'avantage de la concurrence actuelle, c'est qu'il est passé du coup sur France 3. Donc finalement, il a peut-être eu plus d'audience que s'il n'était passé sur Canal+. Faire savoir, c'est quand même la grande force des journalistes. Il faut bien sûr qu'ils fassent savoir à chaque fois qu'il y a une intervention, une pression, etc. Moi, en tant qu'historien, je suis pas pour dire faites attention, l'argent corrompt tout, parce que l'argent est nécessaire pour faire fonctionner les rédactions. Mais en même temps, faut faire attention.
Ils sauvent des rédactions aussi, même si après il peut y avoir du dégraissage de grande ampleur, mais ils sauvent des rédactions.
Ils sauvent des rédactions. Libération serait mort s'il n'y avait pas eu Drahi pour le racheter. C'est clair. Et peut-être que l'avenir de Libération, c'est justement d'être sur SFR Presse. Alors, ça sera un autre journal, ça sera autre chose, ça ne sera pas Libération de Serge Julie. Mais, et alors, peut-être que ça va le sauver. Je crois qu'il faut être très attentif à la fabrication, non pas la fabrication, la manipulation, mais comment l'information se constitue, un peu comme on fait dans l'agriculture. Hein, les agriculteurs, ils disent de la fourche à la fourchette. Quels sont les processus de nutrition, est-ce qu'on a pris des antibiotiques, des pesticides, des machins, etc. Et comment on arrive à la qualité bio, fermier ou truc ou machin. Et là, il faut faire la même chose. Comment on part de l'information de base, la collecte de l'information de base, et comment on arrive avec des pratiques professionnelles, avec des pratiques déontologiques qui sont liées à la profession, à une information de qualité, avec effectivement des informations plus grand public, des informations plus pour les élites, etc. Comme ça a toujours existé. Et là, effectivement, il faut, à chaque fois qu'il y a une tentative de pression, mettre un barrage en disant les choses.
Merci beaucoup Patrick Evenot, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'information. Christophe Deloire, c'est un risque pour les rédactions. Je ne sais pas que BFM, Libération, L'Express...
Je rejoins Patrick Evenot sur le fait que la concentration, c'est un risque. C'est-à-dire que le jour où, grâce à la concentration, en détournant les journaux que possède un groupe... ou une personne, ça représente un risque pour la société, c'est évident, plus qu'un problème en soi. Je m'explique. Deux des pays de plus forte concentration en Europe, et sans doute les deux pays où les médias sont les plus concentrés, sont les Pays-Bas et la Norvège. Et c'est des pays d'un très bon niveau en matière de liberté de la presse, ils sont même deuxième et troisième au classement mondial de la liberté de la presse. La question, c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ça n'est pas l'argent en soi qui corrompt tout. Je me souviens avoir vu récemment aux Assises du journalisme à Tours l'un des patrons de l'Humanité dire « mon problème, c'est un manque de capital ». Évidemment que les médias ont besoin d'argent pour faire vivre l'information. En revanche, ça les affaiblit aussi, y compris économiquement, que d'avoir des gens dont le premier objectif n'est pas de les développer, mais le cas échéant que ces groupes servent à développer leur influence.
Merci à tous pour ce débat sur la liberté de la presse. On change de sujet, on va parler football avec Jacques Vendroux.
Pénal qui va marquer le deuxième but de l'équipe de France. Voilà, Pénal qui marque le deuxième but de l'équipe de France. 2-0, l'équipe de France, c'est sûr, est championne d'Europe de football.
France Inter.
Qui reste, qui rentre dans la surface de réparation. Allez Robert, Robert qui va centrer. La reprise,
le but.
David Trezeguet. C'est
fini.
Le but de Trezeguet.
Dugarry qui part balle au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque.
Arquin.
Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel, c'est sûr, c'est certain.
Et voilà, c'est gagné. Jacques Vendroux, on a encore des frissons en vous écoutant. Il faut une bonne voix, de solides cordes vocales hein, pour commenter le football. Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France, 50 ans de carrière et un livre « Amoureux foot » aux éditions Radio France et Calman Lévy. Jacques, on vient de parler des combats du journalisme. Est-ce que pour le journalisme sportif, la liberté de la presse est aussi un combat face à des clubs, à des règles qui sont difficilement supportables en matière de conférences de presse, par exemple.
Écoutez, quand j'écoute mes confrères qui sont autour de cette table,
c'est vrai que nos problèmes à nous sont quand même un petit peu désuets, sont quand même un petit peu ridicules, un petit peu pathétiques, parce que vous dire qu'on a des difficultés à interviewer Ibrahimovic, des difficultés à interviewer éventuellement d'autres grands joueurs, il y a une période, et c'est vrai que c'est très compliqué actuellement, mais c'est tellement dérisoire par rapport à tout ce que vous avez évoqué avant, je veux dire, la liberté de la presse et les conditions de mes confrères, je veux dire, dans des pays extrêmement compliqués, que je suis content d'en parler, mais je suis aussi un peu gêné d'en parler, parce que le football reste quand même... je veux dire, quelque chose de ludique, où nous avons encore, je veux dire, par rapport à vous, une grande liberté, même s'il faut 40 rendez-vous pour interviewer Ibrahimovic, 200 mails pour approcher éventuellement Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France.
Mais le foot fait vibrer des millions et des millions et des millions de gens.
Mais c'est ça le problème, c'est que... ouais. Le football est un vrai problème de société. C'est-à-dire que le football est une porte de sortie pour tout le monde. Alors, quelles que soient les origines, quelle que soit la nationalité, quelle que soit, je veux dire, la religion, le football nous unit tous. Et on est tous agités par un match de football, on est tous agités par un résultat, par une reprise de volée, par un arrêt formidable d'un gardien de but. Et c'est vrai que c'est le seul dénominateur commun qui nous unit tous. Et quand vous savez que en 2016, dans quelques mois, enfin dans moins d'un mois, il y a l'Euro de football, au moment où le pays traverse des moments un peu compliqués, etc., le football va réunir tout le monde pendant un mois. Et puis après, tout le monde repartira, je veux dire, dans ses problèmes très égoïstement.
À condition qu'on joue bien. Alors dans votre livre, Jacques Vendroux, vous nous dites ce qui est important pour vous. La famille, le football, Gordon Banks, le goal de l'équipe d'Angleterre, champion du monde en 66. Les amis, la fidélité, la joie de vivre, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de blagues. Mais également, ce qui est important, c'est la République. Et ce mot revient, républicain, république, revient plusieurs fois, beaucoup.
Je l'écris beaucoup parce que je pense que c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos parents vous ont appris à dire bonjour et au revoir, vous avez déjà à peu près tout gagné. C'est-à-dire que la République est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Alors c'est vrai que j'ai été élevé, je viens dans cette culture de la République par mon père, mon grand-père, enfin en tous les cas ma famille, et que j'ai été habitué à la Marseillaise, j'ai habitué au drapeau bleu-blanc-rouge, et que c'est vrai, j'en fais un de mes grands principes. Mais je dis pas que j'ai raison, je dis pas que la République doit, je veux dire, occulter tous les problèmes des uns et des autres, mais ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus dans la vie, la politique intérieure de mon pays, même si j'ai des avis, je veux dire, je suis pas qualifié pour, en tous les cas, donner des analyses, mais la République est un mot magique, et c'est vrai que je ne veux pas qu'on le galvaude, et quelqu'un qui ne respecte pas la République, et pour moi, je le dis tout en étant très mesuré, est un ennemi.
Quel regard portez-vous sur le football d'aujourd'hui, les joueurs de 2016 et ceux de 2010 lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud qui ne chantent pas la Marseillaise, dont vous parliez, la Marseillaise?
Ça m'ennuie.
Ils sont mal élevés?
Ils sont mal élevés parce que d'abord porter le maillot de son pays, je veux dire, c'est la chose la plus importante quand on est sportif de haut niveau, d'avoir la chance d'être sélectionné, de représenter la France pour aller jouer à l'étranger, pour faire une phase finale de Coupe du Monde. Et quand vous vous conduisez en 2010 en Afrique du Sud d'une manière pathétique, d'enfants gâtés pour des histoires ridicules, de gamins dans une engueulade de vestiaires. Dans tous les vestiaires du monde, on s'est tous engueulés. Moi, je me suis engueulé dans le cadre du Variété Club de France parce que je jouais gardien, parce que je prenais un but dont j'étais responsable, j'étais vexé, donc j'allumais pour me défendre. Mais c'est pas grave, ce n'est pas important du tout. Ce qui est important, c'est qu'il faut représenter la France d'une manière la plus sérieuse du monde. Alors, il y a un peu de progrès en ce moment, mais je crois que c'est un problème tout simplement familial, l'éducation du football. C'est-à-dire que vos parents doivent vous donner un minimum de base. Et c'est pour ça que j'ai été déçu par le comportement de certains. Mais Laurent Blanc a redressé tout ça quand il est devenu sélectionneur. Didier Deschamps, vous l'avez vu, a pris des décisions fortes concernant l'attitude de Karim Benzema. Alors, on peut faire le débat, on peut tout refaire sur Benzema, sauf qu'il a dit... Je pense que Benzema, quelles que soient ses qualités de footballeur, peut être un problème dans le groupe. Donc il assume, mais il a pris la décision. Alors qu'avant, on n'aurait pas pris la décision. Et peut-être que Benzema aurait pu être un problème dans le groupe, c'est vrai. Et la chose la plus importante pour moi, en parlant de la République, c'est la vie en collectivité. La vie dans des vestiaires, c'est hyper important quand vous êtes gamin. la vie dans une rédaction, pour nous maintenant, Frédéric Barrère, c'est hyper important aussi. Et donc, quand vous désignez des joueurs qui vont passer 2 mois, voire 3 mois ensemble, vous prenez pas forcément les 23 meilleurs, vous prenez les 20 meilleurs et vous en prenez 3 qui acceptent d'être remplaçants, par exemple, et qui vont, ils vous feront pas d'histoire. Parce que c'est comme ça, ça fait partie du film.
Alors, le football, Jacques Vendroux, vous nous dites que vous avez été pistonné au début, vous vous en cachez pas, vous vous en cachez pas, et aujourd'hui, avec le Variété Club de France, qui a une part importante dans votre vie, avec vos amis proches, Michel Platini, Yannick Noah, Jean-Michel Larquet, et d'autres disparus aujourd'hui, eh bien, vous essayez de rendre la chance que vous avez eue en pratiquant le football, et par exemple, vous aider des personnes dans le malheur, ou des personnes en souffrance, des couples qui veulent adopter. Vous avez également fait venir une famille syrienne en France, Jacques.
Oui, mais je considère que c'est normal, c'est pas un exploit, je veux dire, à partir du moment où vous avez la chance d'avoir un certain nombre de relations, et ben vous aidez un certain nombre de personnes en difficulté, et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'essaye tous les jours de faire, parce que j'ai toujours considéré que j'étais un enfant gâté, que j'avais eu beaucoup de chance, que ma famille m'avait beaucoup aidé en 66 pour entrer à la télévision, que ma famille m'a toujours été entière, etc. Et donc, je dois la société. Et quand vous parlez de Platini, vous parlez de Gires, de Yannick Noah, qui sont mes amis, mais je n'ai pas que des amis connus, hein, Frédéric. Mais j'ai
mes amis. Il y a moi aussi.
Il y a vous. Non, mais je veux dire, je leur dis des fois, on est dans un vestiaire, on va aller faire un match de football dans la France profonde, il va y avoir 5000 personnes, il va faire froid, je veux dire, les douches vont être froides après le match, etc. On s'en fout. On a gagné 5000 € pour une famille en difficulté, etc. On a rendu. Mais attention, on n'est pas des héros. Je suis pas Manix. On est, je crois, normaux parce qu'on a eu la chance de recevoir et il faut donner. Moi, tout à l'heure, je parlais avec différents confrères de ce livre et de mon aventure, malheureusement, à Furiani. Furiani, je m'en suis sorti, c'est vrai, il y a eu beaucoup de morts. Les 7 personnes à droite et les 7 personnes à gauche sont mortes, dont notre ami technicien de Radio France, Michel Mottier, et d'autres encore. Moi, mon problème au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi moi et eux sont partis. Donc j'ai un problème, moi, existentiel, que j'essaye de minimiser en disant, par le fait de passer à la radio, à la télévision pour mon livre, il y a des gens qui sont merveilleux, il faut les aider. Les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, c'est à eux la responsabilité. Les gens ne savent pas que nous avons le meilleur service, je veux dire, médical du monde. Ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça que je profite toujours, au travers de mon livre, de leur dire, attendez, on est des enfants gâtés, vous vous rendez pas compte. Allez dans d'autres pays, nous, on a une chance incroyable, incroyable. Et il faut leur rendre, et moi j'essaye de leur rendre modestement.
Il y a un autre drame sur lequel vous voulez pas vous exprimer, c'est le drame du Hesel. Toujours aujourd'hui.
J'ai commenté ce match de football entre Liverpool et la Juventus de Turin, et puis le match ne démarrait pas. Il y avait des bagarres. On pensait que nous, c'était des bagarres sur la gauche, etc., de notre position commentateur. Et puis le match ne démarre toujours pas. Et puis au bout d'une heure, je descends et je vois 40 corps devant la tribune officielle. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'en parler parce qu'après vous êtes obligé de commenter le match. Après vous pouvez en vouloir au monde entier d'avoir fait ce match, mais vous êtes obligé de faire ce match parce qu'après ça devient un règlement de compte entre les Anglais et les Italiens à l'intérieur de Bruxelles. Et ça aurait pu être là malheureusement une catastrophe, je veux dire dans un combat de règlement de compte parce que ce sont les Italiens qui ont chambré les Anglais disent que ce sont les Italiens qui les ont chambrés. Enfin, en toute façon, la vérité, on la connaîtra jamais. Donc, il fallait faire ce match de football, il fallait aussi le commenter. C'était évidemment incommentable, comme le 13 novembre, c'était incommentable de commenter, je veux dire, France-Allemagne, parce que vous avez des bombes qui explosent, vous avez des djihadistes qui se font exploser à quelques mètres de la tribune de presse, mais je veux pas en parler parce que je veux garder simplement les choses positives du football, parce que le football reste quand même, je dirais, une porte de sortie incroyable pour le bonheur des uns et des autres.
Merci beaucoup Jacques Vendroux. Furiani, où non seulement vous étiez, mais vous avez été gravement blessé dans la chute.
Oui, mais je suis
allé derrière
un micro, j'ai pu
rejouer. Et vous avez rejoué au foot.
Et donc.
Et recommenter le foot.
Et recommenter le foot. Donc c'est pour ça que j'ai ce problème avec moi-même et les autres.
On termine avec le clin d'œil de Yacine Bouzard, hommage à Marlon Vendroux.
La voici cette maison étonnante qui fait tellement parler d'elle. Cette maison spécialisée dans la fabrication et la diffusion des programmes radiophoniques a été conçue par des architectes d'avant-garde.
J'ai eu une chance énorme. C'est incroyable. J'ai un père qui me donne le coup de piston. Je fais la connaissance de Thierry Roland. Après, j'ai la chance de venir à la radio où je rencontre des gens incroyablement sympathiques et surtout très bons professionnellement.
Tout est moderne ici, bien sûr. Et même les plafonds. Ces plafonds cachent un système non pas de chauffage, mais de climatisation. Il faudrait dire de thermorégularisation.
Quand j'étais gamin, je vivais dans des vestiaires avec mes copains. Et quand je suis devenu un peu plus adulte, j'ai vécu dans des rédactions.
Une telle construction bouleverse évidemment non seulement un quartier, mais peut-être surtout des habitudes.
Quand vous faites complètement l'unanimité, ça veut dire que vous êtes quelque part un peu incolore ou inodore. Je veux dire, quand on vous dit sans arrêt, celui-là il est vraiment bien, il est vraiment bien, il est vraiment bien, il est vraiment bien, il y a forcément une faille. N'oublions jamais que l'auditeur, il est derrière un petit transistor.
Merci à tous, c'était le clin d'œil de Yacine Bouzard. L'émission se termine, j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Soukaina Abdessamad, journaliste à la télévision nationale tunisienne et secrétaire générale du syndicat national des journalistes tunisiens, Sami Kilic, journaliste politique au journal Zaman France, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, et je crois, Christophe, vous voulez dire un mot sur le livre sans photo pour la liberté de la presse.
Oui, de l'immense photographe brésilien Sebastião Salgado, et qui est dans tous les lieux de vente de journaux et dans les librairies.
Et qui est magnifique. Patrick Evenot, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, était avec nous. Notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. Merci également à Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France et qui publie Amoureux Foot, une coédition, Calman Lévy, Radio France. Dans les coulisses de l'émission, Antoine Tricot, David Jacuboviez, avec aux manettes aujourd'hui Alexandre Dang. Dans un instant, le journal de Clara Le Coq Réal, suivi de répliques, la mémoire de la guerre d'Algérie. Alain Finkielkraut reçoit François Dorcival et Benjamin Stora. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
La chose la plus importante pour moi en parler de la République, c'est la vie en collectivité. La vie dans des vestiaires, c'est hyper important quand vous êtes gamin. La vie dans une rédaction, pour nous maintenant, Frédéric Barrère, c'est hyper important aussi.
Faire savoir, c'est quand même la grande force des journalistes. Il faut bien sûr qu'ils fassent savoir à chaque fois qu'il y a une intervention, une pression, etc.
Les deux pays où les médias sont les plus concentrés sont les Pays-Bas et la Norvège. Et c'est des pays d'un très bon niveau en matière de liberté de la presse. Ils sont même deuxième et troisième au classement mondial de la liberté de la presse.